Le journal Jérôme Jadot. Bonjour Jérôme.
Bonjour à tous. Les États-Unis meurtris par les violences raciales, affrontements entre suprémacistes blancs et militants antifascistes. Hier à Charlottesville en Virginie, une femme a été tuée par une voiture fonçant dans la foule. Reportage dans le journal de l'envoyé spécial de France Inter. À la une également, MSF qui renonce à faire voguer son navire de secours aux migrants au large de la Libye. Trop de contraintes, trop de dangers. Des policiers qui aimeraient ne plus se faire refouler quand ils vont quelque part avec leur arme sur leur temps libre. Et puis dans le journal des sports, dans 10 minutes, Kevin Mayer en or aux mondiaux d'athlétisme. Keke Labrèze a enflammé la piste sur le décathlon londonien. Enfin, Neymar du Camp Nou au Roudourou. Changement d'échelle pour la nouvelle recrue du PSG qui jouera ce soir à Guingamp.
France Inter.
Ils étaient venus pour protester contre le déboulonnage d'une statue d'un général sudiste favorable à l'esclavage des membres du Ku Klux Klan, des néo-nazis et autres membres de la droite radicale américaine. S'étaient donné rendez-vous à Charlottesville, petite ville tranquille de Virginie. En réaction, des militants antifascistes avaient aussi appelé à se rassembler. Cela a débouché sur des échauffourées. Avant qu'une voiture ne fonce délibérément sur les contre-manifestants, une jeune femme a été tuée. Plusieurs dizaines de manifestants blessés. Philippe Randet était sur place pour France Inter.
La voiture est encore en train de reculer. Elle vient de foncer sur les manifestants. Dans la rue étroite à sens unique, des dizaines de personnes courent dans tous les sens en criant le nom de leurs proches. C'est complètement dingue. Des personnes sont en train de mourir, dit ce manifestant antifasciste. Est-ce que ça va? Demande-t-il à une jeune fille le visage en sang. Un peu plus loin, en attendant les secours, John, collé contre le mur sur le trottoir, observe un manifestant allongé sur le bitume. Il y a quelqu'un par terre avec la jambe à moitié arrachée. Il y a des choses sur partout, du sang sur le trottoir. Je n'ai jamais vu une attaque raciste aussi horrible de toute ma vie. Très vite, au milieu du chaos, les premières ambulances et les policiers arrivent. Jane, qui a passé la journée à arpenter les rues de Charlottesville pour chasser les membres de groupuscules d'extrême droite, pleure dans son foulard. Ça a été tendu toute la journée. On sait qu'il y a des gens qui sont capables de ce genre de comportement, des blancs racistes qui nous en veulent. On sait qu'ils existent à tous les niveaux. Mais là, c'est complètement dingue. Ils nous ont foncé dessus. Ils ne savaient même pas qui il y avait dans la foule. C'était une foule mélangée, mixte. C'est vraiment de la haine gratuite. C'est de la folie totale. Quelques minutes plus tard, dans la rue piétonne de Charlottesville, les membres des groupuscules d'extrême droite sont désormais invisibles. Les magasins ont tous fermé. Des groupes de militants antifascistes déambulent en silence, survolés par un hélicoptère. Charlottesville, Philippe Randet, France Inter.
Le conducteur de la voiture a été interpellé. Selon CNN, le jeune homme de 20 ans a été inculpé pour meurtre. Le FBI a ouvert une enquête. Des violence rapidement condamnée par Donald Trump, mais il s'est refusé à pointer du doigt l'extrême droite, ce qu'a fait son ministre de la Justice, Jeff Sessions, en dénonçant l'intolérance raciale et la haine. Donald Trump, qui enrobe un peu ses déclarations va-t-en-guerre contre la Corée du Nord, dans un communiqué, le président américain évoque désormais la possibilité de mesures diplomatiques, économiques et militaire. Contre Pyongyang, il a été pressé d'adoucir le ton hier par plusieurs homologues, dont Emmanuel Macron. Au Kenya, Raila Odinga, toujours silencieux après sa défaite à l'élection présidentielle. Les affrontements entre ses partisans et les forces de l'ordre ont fait au moins 11 morts depuis la proclamation de la victoire d'Uhuru Kenyatta. La parole du vieil opposant pourrait, selon sa tonalité, ramener le calme ou aviver les tensions.
8h04 sur France Inter, la suite du journal Jérôme Jadot. Les policiers armés hors service peuvent-ils servir à quelque chose.
La question se pose en effet après des refus de les laisser entrer munis de leurs pistolets à la Tour Eiffel ou encore lors de concerts. Depuis les attentats de 2015, un règlement les autorise pourtant à conserver leurs armes sur leur temps libre. Ça leur permettrait d'intervenir en cas d'attaque, mais dans les faits, cela ressemble à une demi-mesure, Emmanuel Leclerc.
Depuis 7 ans, Michael est gardien de la paix à Paris et depuis les attentats dans la capitale, il a souhaité garder son arme de service 24 heures sur 24 au cas où. Il fait partie de l'unité de sécurisation des lieux publics. Il connaît donc très bien les vigiles, notamment à la Tour Eiffel. Mais pour venir armé en civil avec son épouse, impossible.
On appelle le chef qui s'occupe des agents de sécurité devant tout le monde et il nous dit que c'est pas possible de rentrer. Je veux dire, récemment, par exemple, concert Fnac. J'y vais l'après-midi, l'agent de sécurité me dit « non, vous rentrez pas ». Je trouve ça pas normal.
La FNAC n'a pas souhaité réagir. Le règlement de la Tour Eiffel, lui, est formel. Pas d'armes dans les étages. En fait, la loi aujourd'hui n'oblige toujours pas les gérants privés de lieux publics ou de salles de spectacle à accepter des policiers ou des gendarmes en civil à entrer avec leurs armes de service. Stanislas Gondon est l'un des délégués du syndicat Alliance.
C'est vrai que c'est un non-sens. Tous les ministres de l'Intérieur ont été saisis par notre organisation syndicale et aucun n'a voulu prendre son courage à deux mains pour écrire un nouveau texte de loi qui nous autorise à porter notre arme hors service en tout temps, en tout lieu, comme c'était prévu depuis le début.
Un amendement avait été déposé en février dernier par le député LR Georges Fenech, amendement écarté en commission des lois.
Il y aura bien un procès dans l'affaire Air Cocaïne. La justice a décidé de renvoyer 14 personnes devant les assises des Bouches-du-Rhône. Elles sont suspectées de faire partie d'un réseau d'importation de cocaïne par les airs depuis la République dominicaine.
MSF ne veut plus se risquer seul au large des côtes libyennes.
Médecins sans frontières a décidé de suspendre les activités du Prudence. C'est le plus gros des navires qui viennent en secours aux migrants. Pression du gouvernement italien, menace des garde-côtes libyens. Françoise Boucher-Solmier, directrice juridique de MSF, estime qu'on leur met trop de bâtons dans les roues.
Il y a une accumulation depuis quelques semaines d'événements, un climat qui dégénère. Donc après le code de conduite italien, après la décision de l'Italie d'avoir une intervention militaire, notamment conjointe avec la Libye, cette décision de la Libye d'interdire une zone dont on n'a pas eu de précision sur son étendue, donc la Libye est évidemment souveraine dans ses eaux territoriales, mais jusqu'où cette zone dite de sauvetage sous le contrôle de la Libye est étendue, on ne le sait pas. Une attaque par des gardes-côtes le 7 août sur un bateau de sauvetage, tout ça nous conduit aujourd'hui à dire le climat est devenu beaucoup trop confus et dangereux. Donc on demande à la fois à l'Italie et à la Libye de clarifier les règles pour régler ce problème dramatique qui est celui effectivement des migrations, du trafic. Mais on ne peut pas nous être pénalisés et mis en danger par des décisions politiques et militaires qui nous affectent là, nous et les migrants de manière absolument tragique en ce moment.
MSF qui continue en revanche à assurer la logistique et l'assistance sanitaire sur un autre navire, l'Aquarius, géré par l'association SOS Méditerranée et qui opère actuellement dans les eaux internationales.
On termine avec un trajet Paris-Marseille, Jérôme Jadot, un peu particulier.
Particulier à deux titres. D'abord parce qu'il va être entrepris sur l'eau, en kayak, par les fleuves et les canaux. Hors du commun aussi parce que celui qui pagaiera à partir de demain est atteint de la sclérose en plaques. Cet Isérois de 47 ans veut faire avancer la recherche sur sa maladie. Véronique Puyot l'a rencontré.
Malgré sa maladie, Géraud Payot a la pêche et toujours le sourire. Cela fait un an qu'il peaufine son projet et se prépare physiquement pour rallier Paris à Marseille avec son kayak de mer. Géraud Payot.
C'est un peu plus de 1000 km que je vais avoir à faire. L'idée, c'est de pagayer à peu près une vingtaine de kilomètres par jour en moyenne pour relier par la Seine, les différents canaux du centre, monter sur Chalon-sur-Saône, récupérer la Saône, récupérer le Rhône à Lyon et puis après un petit peu de Méditerranée pour arriver jusqu'au port de Marseille. Je vais avoir un peu de soutien logistique, d'amis, de famille, des clubs de kayak des régions traversées, du club de kayak du GAC de Grenoble aussi, qui vont venir pagayer quelques jours avec moi.
Géraud vit depuis 13 ans avec une sclérose en plaques. Au cours de son périple, il va s'arrêter dans 7 villes pour aller à la rencontre des malades et récolter des fonds pour la recherche, car aucun traitement n'existe à ce jour.
Ce projet, je vais le faire. J'ai décidé d'arrêter de ramer contre la sclérose en plaques et de pagayer avec. Et l'idée, c'est plutôt de dire, on a cette maladie, on essaye de vivre le mieux avec, le mieux possible avec, en adaptant son emploi du temps, en faisant des choses adaptées et de profiter des bons moments. Et je veux que ma volonté et ma bonne humeur ça soit communicatif et que tous ensemble on avance.
Et après 55 jours à bord de son kayak, près d'un demi-million de coups de pagaie plus tard, et après avoir franchi 172 écluses, il espère bien arriver le 7 octobre à bon port.
À bon port, c'est-à-dire dans la cité phocéenne où Emmanuel Macron passe finalement ses vacances. L'Élysée avait refusé de communiquer sur le lieu de villégiature du président. Quelques tweets de passants interloqués ont mis fin au secret. On l'a notamment vu courir sur la plage du Prado ou encore se rendre au château de la Buzine, celui du château de ma mère. Le couple présidentiel loge dans la résidence privée du préfet de région qui, on sera sûr Laetitia, est dotée d'une piscine.
Merci Jérôme Jadot.